Marc Ecker, bonjour.
Bonjour David Abiker.
Vous êtes, je le rappelle, également rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Marc Ecker, merci d'être avec nous aujourd'hui. La France a relevé au maximum son niveau d'alerte d'urgence attentat. Est-ce une sage précaution ?
Oui, c'est sans doute une sage précaution, l'expression que vous employez est la bonne. D'habitude, ce stade urgence attentat est utilisé justement quand il vient d'y avoir un attentat sur le territoire national pour éviter un surattentat, pour essayer de démanteler les réseaux qui ont agi, pour essayer de neutraliser les terroristes qui sont éventuellement passés à l'acte ou qui resteraient dans la nature. Là, on est dans une configuration un peu différente puisqu'il s'agit d'un attentat perpétré à des milliers de kilomètres de chez nous. Je pense que le calcul des autorités à la fois politique, parce qu'il s'agit de montrer que les autorités sont présentes, prennent bien la mesure de cette menace. Et puis, il s'agit aussi d'une précaution sécuritaire, parce qu'il peut y avoir des effets d'entraînement quand un attentat se produit à l'étranger. Ça peut donner des idées aussi sur le territoire national et activer en quelque sorte une menace endogène.
On va revenir quelques jours en avance. Pourquoi l'État islamique a-t-il frappé la Russie et pourquoi maintenant ?
Alors la Russie, en fait, c'est un ennemi de longue date de la mouvance djihadiste. Donc ça, il n'y a pas vraiment de surprise sur le fait que la Russie fasse partie des nombreux ennemis de l'État islamique. Il faut rappeler l'engagement de l'Union soviétique à l'époque en Afghanistan dans les années 80, ce qui reste le djihad historique de cette mouvance djihadiste. Et c'est d'ailleurs pendant cette période-là que s'est créé Al-Qaïda. Il faut rappeler aussi les guerres en Tchétchénie. Et puis plus récemment, l'engagement de la Russie sur différents théâtres où sont présents des djihadistes. On pense bien sûr à la zone syro-irakienne et en particulier à la Syrie, et puis on pense même aussi au Sahel avec le groupe Wagner qui est actuellement en lutte contre des groupes djihadistes sur place aux côtés de l'armée malienne en particulier. Donc oui, la Russie est un ennemi. Il y a eu de nombreux attentats qui ont touché la Russie ou les intérêts russes à l'étranger. Je vous en cite un par exemple qu'on a eu tendance à oublier parce qu'il a eu lieu quelques jours avant les attentats du 13 novembre 2015 en France, et donc la mémoire collective a écrasé tout le reste évidemment. C'est un attentat qui a visé un avion de ligne russe qui partait d'Égypte, et la Wilaya Sinaï, donc la province du Sinaï de l'État islamique, avait abattu cet avion avec un explosif à bord et tout le personnel et les passagers étaient décédés. Donc on voit que la Russie, c'est une cible fréquente qui est pour la mouvance djihadiste un autre Satan.
Alors la guerre en Ukraine a-t-elle affaibli la vigilance antiterroriste de la Russie ? C'est une question qu'on peut se poser.
Évidemment, il est difficile d'être présent sur plusieurs fronts à la fois, et puis l'Ukraine est clairement l'objectif numéro un de la Russie d'un point de vue défense et sécuritaire. Maintenant, on sait que les menaces ont tendance plutôt à s'additionner qu'à se remplacer, et il y a probablement encore une part importante de l'appareil sécuritaire russe qui est tout de même concentré sur cette menace terroriste. On voit aussi que la Russie est encore présente en Syrie, certes avec des moyens moindres, mais enfin elle n'avait pas complètement déserté ce théâtre. On voit aussi que Wagner, sous ce nom ou sous d'autres, est présent encore au Sahel, donc n'a pas non plus déserté totalement ce théâtre. Donc il y a eu effectivement un effet de concentration des efforts et des moyens sur l'Ukraine, mais ça n'a pas non plus totalement asséché le reste.
Marc Ecker, directeur adjoint de l'Institut français des relations internationales et l'invité de la matinale de Radio Classique, comment vous expliquez que l'État islamique ait encore les moyens de frapper ? On le croyait durablement affaibli et il était passé un peu au second plan de l'actualité depuis notamment le début de la guerre en Ukraine.
Oui, encore une fois, les menaces n'ont pas tendance à se remplacer mais à s'additionner. Et ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui travaillaient sur le terrorisme de longue date n'ont pas détourné le regard. C'est-à-dire qu'on était vraiment en train de suivre les évolutions et les mutations de Daesh. Alors c'est vrai que c'est une organisation qui a beaucoup changé depuis 2015, mais c'est une organisation qui, de manière très intéressante, avait prévu sa décentralisation dès l'origine. Le califat, qui a été proclamé en 2014, se voulait mondial avec la création de provinces dans différentes zones et la tentative de duplication du califat syro-irakien dans différents pays, en particulier en Libye et en Afghanistan. Et là, on voit qu'après l'attentat de Moscou, tous les regards se sont tournés vers l'Afghanistan, et plus spécifiquement cette branche qui s'appelle l'État islamique Khorasan. Point important, le Khorasan, qui est une appellation médiévale, dépasse l'Afghanistan stricto sensu, touche aussi une partie de l'Iran, une partie de l'Asie centrale, une partie de l'Asie du Sud. Donc il ne faut pas être surpris non plus si on voit des ressortissants d'Asie centrale impliqués dans ce type d'attaque et agir au nom de l'État islamique du Khorasan.
Au plan territorial, au plan de l'organisation, au plan de la chefferie, qu'est-ce que c'est que l'État islamique aujourd'hui ? C'est une nébuleuse, on a du mal à identifier qui fait quoi, sur quel territoire, où les choses sont assez précises.
C'est un groupe qui en réalité est très résilient, avec des provinces, des organisations locales qui sont plus ou moins fortes selon les endroits. Effectivement, le terme de nébuleuse pourrait correspondre, mais avec quand même des objectifs communs et puis avec un appareil de communication aussi qui donne une marque commune à ces différents groupes locaux. En un sens, ça rappelle ce qu'a pu être Al-Qaïda à une époque. Al-Qaïda qui a commencé comme une organisation très centralisée et pyramidale et qui ensuite s'est décentralisée de deux manières. D'une part, en ouvrant des filiales régionales et puis d'autre part, en investissant massivement dans Internet pour susciter une décentralisation maximale avec ce qu'on a appelé par la suite le terrorisme d'inspiration. Donc on a cette forme de mimétisme entre Daesh et Al-Qaïda, mais avec une différence de taille, c'est que pour Al-Qaïda, la décentralisation était vraiment un moyen de survie quand l'organisation centrale avait quasiment été détruite après le 11 septembre 2001 et la réaction des États-Unis et de leurs alliés, alors que pour Daesh, cette décentralisation a été conçue dès l'origine.
C'est le moyen de la prospérité.
C'est le moyen de la résilience, plus que de la prospérité. Après, la résilience permet un degré minimal de survie et selon les endroits, il va pouvoir y avoir un sursaut, une remontée en puissance et la capacité soit à développer à nouveau une emprise territoriale et une forme de gouvernance, soit même à développer un sanctuaire terroriste qui permettra ensuite de projeter des combattants vers l'extérieur. Et aujourd'hui, on a toute cette rhétorique et cette difficulté à appréhender la suite de la menace. Est-ce qu'on va avoir un retour de la menace projetée, comme ce qu'on avait eu le 13 novembre 2015 en France, ou est-ce qu'on va avoir d'autres formes d'interaction avec l'étranger, soit du terrorisme qu'on appelle téléguidé, c'est-à-dire des cadres de l'étranger qui arrivent à cibler des ressortissants nationaux et à leur désigner des cibles, soit une modalité encore moindre de lien entre l'organisation et ceux qui passent à l'acte, ce qu'on appelle le terrorisme d'inspiration que j'ai évoqué avant.
Que vous a inspiré l'attentat de Moscou dans ses ressemblances frappantes, y compris dans le bilan d'ailleurs avec l'attentat de 2015 le 13 novembre en France?
Effectivement, c'est un mode opératoire qu'on connaît de la mouvance djihadiste qui attaque des civils, qui cible des lieux où il y a beaucoup de monde. Alors ça peut être une salle de concert, ça peut être des terrasses de café, ça peut être un stade, ça peut être un rassemblement à l'occasion d'un grand événement, y compris un événement sportif. Et là, évidemment, on a les Jeux Olympiques en ligne de mire. En même temps, je dois dire que je suis toujours, moi, prudent quand je vois des événements de ce type-là apparaître maintenant, et puis toute la désinformation ou mésinformation qu'il peut y avoir autour. On vit dans un monde aussi de théorie du complot, donc tout ça rend les choses très compliquées.
Quand vous parlez de désinformation, vous pensez à quoi, par exemple ?
Je pense au fait que, clairement, du côté du pouvoir russe, on essaye d'orienter les choses vers l'Ukraine. Et il y a un appareil informationnel qui se met en place derrière pour essayer d'appuyer cela. Mais je suis méfiant parce que effectivement, il est difficile dans ce monde où les accès sont de plus en plus compliqués à certains théâtres de pouvoir remonter à la source et d'avoir des informations de surcroît rapides et précises sur un phénomène comme un phénomène terroriste. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a eu les attentats de 2015, on vivait dans un monde où on était dans l'ère stratégique de la guerre globale contre le terrorisme. Il y avait un ennemi bien identifié qui était commun d'ailleurs à plusieurs États. C'était le cas pour nous, Européens, les États-Unis, mais aussi pour la Russie, l'Iran, etc. Et c'était Daesh, cet État. Aujourd'hui, on est dans un monde plus complexe parce qu'on a la compétition entre États et parfois la guerre et les conflits entre États qui s'y sont rajoutés. Et donc, on a aujourd'hui un affrontement entre la Russie et l'Ukraine, la Russie qui accuse également l'Occident plus généralement, qui se rajoute à cet affrontement terroriste. Et on sait que les États ont des capacités de manipulation autres et peuvent être eux aussi tentés d'instrumentaliser la mouvance terroriste. Donc ça rend le travail des chercheurs sur ces sujets-là beaucoup plus compliqué parce qu'on opère, si je puis dire, dans le brouillard de la guerre.
Que veut l'État islamique ?
Que veut l'État islamique? L'État islamique est dans une logique de guerre totale, avec une volonté d'établir un califat mondial, de soumettre ses adversaires, c'est-à-dire tous ceux qui ne pensent pas comme l'État islamique, et ça dépasse en réalité l'affrontement entre les musulmans et les non-musulmans, parce que en réalité, il y a une vraie crise au sein même du monde musulman, avec Daesh qui s'en prend aux plus modérés, à tous ceux qui ne pensent pas comme lui, au sein même de l'islam. Et on voit sur tous les théâtres où Daesh a été présent, que les principales victimes de cette organisation sont des musulmans. C'était le cas en Syrie, c'était le cas en Irak. Donc cette organisation veut imposer sa vision du monde, qui est une vision de l'islam radical.
Marc Ecker de l'IFRI, je fais un pas de côté. Quand on est un responsable du Hamas, politique ou militaire, et qu'on apprend cette nouvelle de ce qui est arrivé à Moscou, on pense quoi ? Je vous pose la question parce que vous avez travaillé sur l'activisme pro-palestinien. Comment le Hamas se positionne par rapport à de tels événements et de tels attentats ?
D'une part, c'est très difficile pour moi de me mettre à la place d'un chef du Hamas. Plusieurs points. Alors d'abord, ces organisations, Hamas d'un côté, Daesh et Al-Qaïda de l'autre, sont quand même très différentes d'un point de vue idéologique.
Je fais pas de comparaison.
On n'a pas affaire à la même mouvance. D'un côté, on a une mouvance internationaliste, djihadiste, avec Daesh et Al-Qaïda qui veulent imposer un califat mondial. D'un autre côté, on a un mélange qui évolue aussi, mais un mélange d'islamisme et de nationalisme, avec une cause qui est quand même très focalisée sur la Palestine, même s'il peut y avoir des velléités qui vont au-delà. Je pense que le Hamas n'a aucune envie et aucun intérêt d'être associé à des mouvances comme Daesh. Ce qui, d'ailleurs, rend l'interprétation du 7 octobre compliquée, parce qu'ils ont utilisé des modes opératoires qui pouvaient les associer. Moi-même, à l'époque, j'avais parlé d'une daeshisation des méthodes du Hamas, que j'ai toujours du mal à comprendre, parce que, objectivement, ils n'ont pas d'intérêt à être associés à cette mouvance-là.
Dernière question, et on revient en France. Les Jeux Olympiques, vous avez évoqué le sujet. Il y a une menace réelle, ce sont des centaines de milliers de participants, notamment à la cérémonie d'ouverture. Que peut-on faire encore pour sécuriser l'événement ?
Il y a une menace effectivement qui est là. Il y a plusieurs menaces. Il y a la menace terroriste, il y a la menace cyber. Il y a aussi des activistes liés à d'autres mouvances qui peuvent essayer de mettre des grains de sable dans l'organisation. La sécurité, elle sera évidemment maximale. Des chiffres ont été communiqués par la préfecture de police. Jusqu'à 45 000 policiers et gendarmes mobilisés. 20 000 militaires, plus 20 000 agents de sécurité privés. Il y aura des périmètres de sécurité avec des fouilles. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Très franchement, pas grand-chose. Donc, il faut aussi qu'on soit résilient, qu'on puisse aussi profiter de cet événement-là sans vivre en permanence dans la peur et la terreur, parce que ça, c'est déjà offrir une victoire aux terroristes.
Ce sera le mot de la fin, ne pas vivre dans la peur et la terreur pour ne pas offrir une victoire aux terroristes. Marc Ecker, directeur adjoint de l'Institut français des relations internationales, merci d'avoir été avec nous sur Radio Classique ce matin. À bientôt.
Merci.
À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et Notre Esprit Libre du lundi, le philosophe Luc Ferry. Et avec Luc Ferry, on va parler de musique.